Elle est représentée par Marie-Françoise Eolo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Corruption en milieu scolaire, la gangrène prend de l'ampleur. Deux directeurs d'école publique viennent d'être limogés par le ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Itunzingwa, pour perception des taux illicites. Frais d'examen non conformes, APE, frais de photocopie, achat de rames de papier, matériel de construction, tout est bon pour exiger de l'argent. Le dossier du 13h se penche aussi sur le paquet minimum. À quoi sert-il? La grille officielle des frais d'examen 2025 est connue. Quels sont les documents exigés, les délais et la destination? Corruption en milieu scolaire, le 13h fait la lumière. Hausse du prix du kilowatt, déjà dégraissement dedans chez les abonnés au compteur prépayé des zones urbaines. On est passé de 50 à 79 francs le kilowatt. C'est la résultante de la rencontre tripartite entre le régulateur, la société distributrice et le comité consultatif des consommateurs d'électricité. Le 13h fait le point. En sport, nous parlerons du match des Lions indomptables hier en Afrique du Sud contre la Namibie. Les deux équipes ont fait match nul, 0 but partout. Le Cameroun conserve néanmoins sa première place dans le groupe J. Le point dans les autres groupes, on parlera enfin de l'affiche et des enjeux de la Super Coupe de football féminin. Corruption en milieu scolaire, frais d'examen illicites, d'APE et matériel didactique imposé aux élèves. La liste des récriminations est longue et pourtant, les textes consacrent la gratuité de l'école primaire publique au Cameroun. Il y a quelques jours, deux directeurs d'école publique ont été relevés de leurs fonctions pour perception de taux illicites de frais d'inscription aux examens officiels 2025 par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Itunzingwa. Séraphin Jikam.
Je paye la PE 10 000. C'est beaucoup. C'est autant qu'on dit que l'école est gratuite. Pourquoi faire tout ça?
C'est le cri de détresse de Marlise, mère de 4 enfants. La vendeuse d'orange s'offusque de ses frais illicites exigés par le directeur de l'école primaire publique où fréquente ses enfants.
Des fois même on dit que les balais, les enfants paient l'argent pour acheter les balais ou c'est les parents qui achètent. Notre message est que vraiment les gens du haut là doivent faire quelque chose parce que les temps sont durs.
On pourrait ajouter à la liste matériaux de construction, boîtes de craie, savon de ménage et autres papiers hygiéniques. C'est un tableau noir de sollicitations qui maintiennent une pression financière sur les parents d'élèves. Michel Simon Ebo.
L'école ne saurait être un business. Le chef de l'État avait dit au niveau de l'enseignement primaire, c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on continue à parler d'argent, déjà que les parents tirent le diable par la queue.
Face à ces actes, certains parents essaient de comprendre ce qui pourrait pousser les directeurs d'école et autres proviseurs à fabriquer de toutes pièces des frais scolaires imaginaires.
La corruption est inacceptable en milieu scolaire. Maintenant, est-ce que les frais qu'on met à la disposition des chefs d'établissement sont de nature à leur permettre d'assurer la gestion harmonieuse de l'établissement?
Le ministre de l'Éducation de base a montré l'exemple en relevant de leur fonction deux directeurs d'écoles primaires publiques. Une sérieuse alerte à ceux des responsables d'établissement qui versent encore dans ces actes peu honorables pour notre système éducatif.
Le fonctionnement des écoles primaires publiques dans la région de l'Est repose sur une synergie d'action. Les pouvoirs publics à travers le paquet minimum sont accompagnés dans leurs efforts par le soutien des parents d'élèves et des enseignants en début de chaque année scolaire. Un partenariat qui se poursuit efficacement pour relever le niveau d'éducation dans cette région classée parmi les zones d'éducation prioritaire. Voici la correspondance de Ousmane Abdulaziz, CRTV Est.
L'éducation dans la région de l'Est est une affaire de tous. Pouvoirs publics, parents et enseignants mettent la main à la pâte pour la bonne marche du système éducatif. Ici, le paquet minimum mis à la disposition des responsables des écoles primaires publiques est apprécié à sa juste valeur. Issa Ndjoku, directeur de l'école d'application, groupe 4B de Mokolo, Bertois.
Constitué de quelques boîtes de craie, paquets de billes, le râteau, les perles, ainsi de suite. Et ça nous a juste permis de démarrer l'année scolaire.
Cet appui des pouvoirs publics n'exclut pas les interventions de l'Association des parents d'élèves et enseignants qui œuvre pour la bonne marche de l'éducation. Élise Léopoldine Abanda Aïdjo, directrice de l'école d'application groupe 3B de Berthois.
Le paquet minimum, il n'arrive pas toujours à temps. Cette année, par exemple, il est arrivé au mois d'octobre, dont les parents nous ont aidés à démarrer l'année scolaire, ce qu'il fallait par rapport aux enseignements.
Le paquet minimum, qui est une tradition dans la commune de Doumentan, par exemple, se renforce au fil des ans pour une éducation de qualité. Honoré Koumé, maire de la commune de Doumentan.
Ici à Doumentan, nous faisons des efforts pour les réhabilitations des écoles, pour la fourniture des tables-bancs, mais nous mettons un accent particulier sur le paquet minimum.
Pouvoir public, parents d'élèves et enseignants œuvrent main dans la main pour relever le niveau d'éducation scolaire dans la région de l'Est, dite zone d'éducation prioritaire. Berthois, Ousmane Abdulaziz, CRTV.
Rappelons que les ministres en charge de l'éducation ont publié en septembre dernier les circulaires qui fixent les modalités de collecte, de conservation et de gestion des frais d'inscription aux examens et concours de la session 2025. L'heure est donc au dépôt des dossiers au niveau des établissements scolaires. Rappel de la grille officielle des frais et modalités pratiques, Ibrahim Mohamed Abassi.
Les frais d'inscription au baccalauréat et probatoire de l'enseignement secondaire, toutes séries confondues de la session 2025, sont respectivement fixés à 13 et 12 000 francs CFA plus 2 000 francs CFA de frais de timbre. À cela s'ajoutent les frais de participation des matières d'œuvre pour les examens relevant de l'enseignement technique qui varient entre 3 500 et 8 000 francs CFA en fonction des spécialités. Pour le brevet d'études du premier cycle, le montant est fixé à 7 000 francs CFA. Pour être candidat au certificat d'études primaires, au Fair School Living Certificate et au Common Entrance Examination, il faut débourser 6 000 francs CFA. Agnès Osomba, sous-directeur de l'organisation des examens et concours au ministère de l'Éducation des bases.
Frais d'examen 2500 francs, fonds d'appui à l'organisation des examens 1400 francs, timbre fiscal 1500 francs, timbre communal 500 francs, télédéclaration 100 francs.
En plus de ces frais, d'autres conditions sont exigées.
Les fiches d'inscription des candidats sont retirées auprès de l'administration de leur école sous présentation d'au moins la copie de l'acte de naissance. Le retrait de cette fiche est gratuit.
Les dossiers sont reçus au niveau des établissements scolaires jusqu'au 4 décembre 2024. Passé ces délais, les retardataires payeront les pénalités.
La surfacturation des titres de paiement comme la perception des taux illicites, des frais d'inscription aux examens officiels est une pratique de corruption selon la Commission nationale anticorruption, CONAC. Dans son dernier rapport, la CONAC décrit les formes de corruption et souligne les actions implémentées pour lutter contre la corruption en milieu scolaire. Nathalie Nvogo.
La toile de la corruption s'est étendue dans le secteur de l'éducation, l'un des secteurs les plus gangrénés selon les publications de la CONAC, ouvrant le chapitre 6 du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption pour la période 2022-2026. Les tactiques de combat contre la corruption dans le secteur de l'éducation y sont dévoilées, même si sur le terrain, les pratiques persistent. À l'observation, la décision du ministre de l'Éducation de base relevant de leur fonction des directeurs d'école est une action d'éclat. Au-delà de son caractère dissuasif, les sanctions viennent renforcer l'arsenal répressif de la Commission nationale anticorruption. Depuis quelques jours, le chapelet de dénonciation s'égrène, les langues se délient, les plaintes des parents d'élèves s'empilent dans les établissements publics et privés, à l'éducation de base comme dans l'enseignement secondaire. Pour induire un changement de comportement, la stratégie de la CONAC repose sur des piliers comme la sensibilisation en matière de promotion de l'intégrité, la collaboration entre les acteurs de la communauté éducative, le fait de traduire systématiquement les suspects d'actes de corruption devant les juridictions compétentes ou de publier les sanctions infligées aux personnes reconnues coupables d'actes de corruption sont autant d'instruments de combat, donnant lieu d'espérer la victoire sur la corruption dans le secteur de l'éducation.
Vous Vous écoutez le 13h. Amélioration de la protection de l'enfant au Cameroun. Le ministère des Affaires sociales opte pour un système de digitalisation des informations pour la gestion des cas de protection de l'enfant. La plateforme numérique vient d'être officiellement mise sur pied par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné. L'innovation que soutient l'UNICEF a pour but de trouver des solutions définitives aux problèmes d'enfants abandonnés et maltraités au Cameroun. Le ministre des Affaires sociales salue donc cette innovation qui va désormais révolutionner le domaine de la protection de l'enfance au Cameroun. Pauline Irène Guéné est au micro de Viviane Foul.
La protection de l'enfant a plusieurs composantes. Il y a des enfants qui sont dans les ménages démunis, il y a des enfants qui sont même abandonnés, on parle beaucoup des enfants de la rue. Donc, vous voyez qu'on aura tous ces cas dans un seul système, dans la plateforme. Et en temps réel, on saura quel est le traitement qui a été accordé à ces enfants vulnérables. Parce que c'est de ça dont il est question. Il y a plusieurs acteurs dans la chaîne de protection de l'enfant. Évidemment, chaque acteur s'est déployé à son niveau et à sa manière. Et aujourd'hui, on aura une plateforme harmonisée où les procédures seront les mêmes et on aura des résultats en temps réel pour tous les acteurs.
Depuis le 1er novembre 2024, de nombreux utilisateurs du compteur prépayé en zone urbaine ont constaté une augmentation du prix du kilowatt à la suite de leur recharge. Une situation qui impose un coût supplémentaire dans leurs habitudes de consommation. Les abonnés veulent comprendre la raison de cette augmentation. Le régulateur et la société en charge de la distribution peinent à convaincre de ce qu'il s'agit d'un souci d'harmonisation. Bernadette Mossomo.
Le compteur prépayé, une innovation qui avait séduit plus d'un, ce d'autant plus que le coût du kilowatt était tout aussi alléchant. Seulement, depuis peu, certains usagers crient à l'arnaque.
Nous constatons qu'il y a une augmentation de plus de 29% de la consommation réelle.
D'habitude, à 1000 francs, j'avais 20 kilowatts, mais j'ai été surpris qu'à 1000 francs, j'ai 12 kilowatts. Ce matin, j'ai dû mettre 2500 francs pour me retrouver avec 30 kilowatts. Aucune préparation psychologique avant cette augmentation, vraiment, c'est désagréable.
Avant, j'ai chargé 5000, ça me faisait un mois. Maintenant, tu charges 5000, ça te fait parfois deux semaines, à peine 10 jours.
Rendu auprès des agences d'Enio pour s'enquérir de la situation, ces consommateurs n'obtiennent pas satisfaction.
Ils ne veulent même pas te parler, ils sont agressifs, ils te repoussent. Ils disent vraiment, c'est peut-être parce que vous utilisez beaucoup de choses, nous ne comprenons pas ce qui se passe.
Des informations reçues en offre de la société distributrice d'énergie électrique, cette hausse serait due à leur désir d'harmoniser la grille tarifaire. Ainsi, les clients résidentiels consommant entre 111 et 150 kilowatts quitteront le tarif promotionnel de 50 francs le kilowatt pour être facturé à 79 francs CFA le kilowatt.
À Douala, c'est également le même constat. La Fondation camerounaise des consommateurs, en abrégé FOCACO, et le collectif des organisations des consommateurs du Cameroun ont initié une marche pacifique dispersée ce matin par la police. José Gaëtan Tsanga, CRTV Littoral.
Avec un potentiel hydrographique enviable par les pays voisins, des barrages en construction, les populations de Douala ne comprennent pas l'augmentation du kilowatt-heure d'électricité qui est passée de 50 à 79 francs CFA.
Dans le monde entier, on parle de la crise économique. Oui, mais on ne dit pas non. Même ça, ici, ça existe. Mais réellement dit, on a des barrages quand même.
Et je sais que normalement, ma consommation vers le 25, ça doit finir. Je verrai si ça va tenir. C'est à ce moment que je pourrais réaliser l'impact de cette augmentation.
La Fondation camerounaise des consommateurs FOCACO et le collectif des organisations des consommateurs du Cameroun COC sont vent debout contre cette hausse. Alphonse Ayissi Abena, président FOCACO.
Nous demandons que la situation hantée doit prévaloir, que les équipes ne facturent plus cela à 79 francs aux ménages et aux abonnés aux revenus précaires.
Henri Serge Kelbé, ingénieur polytechnicien.
Le prix du kilowatt moyen au Cameroun coûte cher par rapport à la moyenne africaine qui est de 70 francs CFA.
Les deux associations de consommateurs ont organisé un sit-in ce matin à l'esplanade du siège social de l'entreprise de distribution de l'énergie à Kumasi Douala, mouvement dispersé par la police puisque reporté par le sous-préfet de Douala Premier. Douala, José Gaëtan Tsanga, CRTV.
Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbaye-Robé, est dans le Nord. et entre autres activités, le lancement des phases 1 et 2 du projet de développement rural des régions du Nord et de la Damawa, un moyen de désenclaver les bassins de production de 19 communes de ces deux régions du Septentrion. Ainsi, les productions de céréales, de coton et autres cultures vont pouvoir desservir les marchés. Ce projet d'une valeur d'environ 13 milliards est le fruit de la coopération de l'État du Cameroun avec plusieurs partenaires de l'Union européenne et de la Banque mondiale. La Commission bancaire d'Afrique centrale travaille sur la réforme du corpus réglementaire régissant la création, le fonctionnement et la gestion des établissements de microfinance en zone CEMAC. Le secrétaire général de la COBAC, Marcel Ondélé, vient d'échanger à Douala avec les professionnels de ce secteur de la sous-région. Faisons le point avant avec Jean-François Eboulé-Tabi de CRTV Littoral.
La microfinance vit de constantes mutations et les professionnels de ce secteur doivent s'adapter à ces évolutions. Patricia Danielle Manon, secrétaire générale adjointe de la COBA.
Les tendances économiques, les innovations technologiques et les attentes croissantes des clients sont autant de facteurs qui influencent de manière permanente le secteur.
Consciente du rôle capital que jouent les établissements de microfinance dans l'inclusion financière et le développement économique des pays et les sources sociale de leur population, la COBAC, dans sa mission, ne fait pas l'économie de ses bons offices.
Nous continuerons à travailler avec vous pour garantir que notre cadre réglementaire est bien adapté aux réalités du marché et aux besoins des clients de votre marché.
De l'avis des professionnels de la microfinance de la CEMAC, ces moments de partage avec la COBAC leur permettent d'améliorer leur performance.
La COBAC a pensé qu'il était intéressant d'apporter des innovations.
Pour renforcer la gouvernance et améliorer le cadre de gestion des risques, le secrétaire général de la COBAC, Michel Ondélé, prescrit aux EMF un strict respect de la réglementation régissant leur secteur. Douala, Jean-François Eboulé-Tabi, CRTV.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 16 minutes à Yaoundé. Et beaucoup parmi vous pensent déjà, ou déjeunent, ils pensent à leur repas de la mi-journée. Mais avec le travail, la fatigue et parfois même la chaleur étouffante, se déplacer pour aller au restaurant devient une mission impossible. Eh bien, grâce au numérique, des plateformes virtuelles de commande et de livraison de repas à domicile ou au bureau existent et elles facilitent la vie à leurs adeptes qui se plaignent néanmoins des prix élevés du repas. Voici le reportage de Gilles-Claude Mbongitundi.
Les commandes de repas en ligne, Arsène en est un adepte. Le célibataire collectionne les adresses des restaurants qui postent leurs services sur les réseaux sociaux.
Il y avait le ndolé, il y avait le poulet, le porc rôti, il y avait les émincés de bœuf. Je leur annonce l'argent pour le numéro, je leur ai écrit. Ils m'ont dit le plat c'est 1500 francs. Frais de livraison 500. Bon, j'ai patienté pratiquement 45 à 50 minutes.
Le jeune homme a aménagé tout un budget pour ses repas. 3000 francs CFA, 4000 francs, voire 5000 francs CFA par plat commandé. Des prix qui paraissent souvent agressifs par rapport à la qualité du service.
Lorsque la dame est arrivée, je n'ai pas goûté lorsqu'elle était là parce que je me suis rendu compte quand j'ai goûté. J'avais l'impression que c'est un plat qui avait dormi, qu'on avait juste réchauffé. Je suis allé dans le forum WhatsApp, je me suis plaint, je n'ai pas eu de réponse en retour.
Les journées de Raïssa sont interminables. La secrétaire de bureau adore les saveurs du terroir. Avec le temps, elle a fini par maîtriser du bout des doigts la procédure des commandes de repas en ligne.
Je vais sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok. Je prends le numéro de téléphone, je les appelle et puis ils m'envoient le menu. Le congrès peut aller de 3000 francs à 4000 francs. Ils ont des scooters pour venir te livrer ta nourriture.
Les restaurants en ligne ont de plus en plus de clients. Seulement la qualité de la connexion Internet perturbe les paiements électroniques. Pour éclore, le business demande un encadrement, comme toutes les opportunités d'affaires en ligne. Le commerce électronique au Cameroun a généré plus de 150 milliards de francs CFA en 2022.
Nécrologie dans le 13h, la levée de corps du professeur Daniel Abois, ancien vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des technologies de l'information et de la communication à l'université de Yaoundé 1. Eh bien, la levée de corps vient d'avoir lieu à l'hôpital général de Yaoundé. C'était devant de nombreux membres du gouvernement avec en bonne place le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famindongo. Mort des suites de maladie le 1er octobre dernier, le grand historien, le professeur Daniel Abois a droit en ce moment même aux hommages académiques à l'université de Yaoundé 1. Les moments forts de cette levée de corps avec Julien Gambi.
Il a mené une vie d'intellectuel digne et comme un retour d'ascenseur, il a eu droit à une levée de corps digne, à l'image des grands hommes, comme une reconnaissance éternelle. À la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, la grande famille des historiens, à l'instar du professeur Samuel Efouambozo.
Nous nous sommes connus il y a 51 ans et on ne s'est plus jamais quitté. Daniel Aboua fait partie, n'est-ce pas, des icônes en histoire au Cameroun.
Le professeur Boubambima, ancien recteur.
De cet homme, grand homme, de ce professeur, de ce grand historien, une image de bravoure.
Également présent à la morgue, le gratin républicain, avec en bonne place le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famindongo. De quoi comprendre les hommages académiques rendus au professeur Daniel Aboua à l'université de Yaoundé 1. La gerbe de fleurs du couple présidentiel aux couleurs du drapeau du Cameroun déposé à côté du cercueil est une reconnaissance de la République à l'endroit du professeur Daniel Aboua. Ce savant pointu, auteur de nombreux ouvrages et qui a donné à la discipline de l'histoire ses lettres de noblesse.
Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale présente à cette levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé salue la mémoire de ce grand patriote qui connaissait les rouages de l'histoire du Cameroun. Grégoire Ouna est au micro de Julien Gambi.
J'ai connu un grand patriote surtout. Il était certes historien, mais il maîtrisait bien les rouages de l'histoire du Cameroun. Et c'était un grand patriote et qui en plus a su appliquer au sein du RDPC dont il a été un militant très engagé. Il a su apprendre et poser les bases du politicien qu'il était. Je crois que c'est un exemple vraiment à suivre par la connaissance qu'il avait et à travers les...
Une autre nouvelle triste, celle de l'assassinat d'un commerçant à Iboulova. Le jeune William Bind a été froidement abattu à l'aide d'une arme de chasse la nuit dernière. Ce jeune homme de 32 ans, tenancier de plusieurs kiosques de transfert d'argent, a été encerclé par des inconnus devant la concession familiale. Voici le compte rendu de Christian Blondelabia.
L'émotion a atteint son pic dans la famille Mbing au quartier Nubel de Bolova. Pauline, la mère, se lamente.
Je disais toujours que c'est lui qui doit m'enterrer.
François le Benjamin s'est armé de courage pour raconter la soirée lugubre et effrayante qu'il a vécue lorsque son frère aîné William Mbing a trouvé la mort.
20h30, on suit un premier coup de feu, un deuxième coup de feu, c'est de la maison que ça sort. J'allume mon téléphone, c'est là où je constate que le corps de mon grand frère est posé au sol. Les enfants du quartier nous disent qu'ils sont passés comme ça, ils sont passés comme ça. C'est comme ça donc que je cours avec mes amis avec qui j'étais.
Né en janvier 1992, William Mbing, connu dans les opérations de transfert d'argent, disposait de nombreux kiosques et assumait fièrement son rôle de pilier.
Il était comme le poteau de sa maman. Elle s'appuyait beaucoup sur lui. C'était quelqu'un de bien. Qu'il soit mort de cette manière, c'est très triste.
Les premières analyses de la police et de la gendarmerie descendues sur le site évoquent les hypothèses de règlement de compte et de vol. Les forces du maintien de l'ordre poursuivent leurs enquêtes en vue d'obtenir autant d'informations que possible. Ebolova, Christian Dondelabia, CRTV.
Le secrétaire exécutif des Synergies africaines contre le sida et les souffrances communique. Synergies africaines se joignent à la communauté nationale et internationale pour célébrer la 37e journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre 2024. À cet égard, sur haute instruction de Madame Chantal Biya, présidente fondatrice de l'association panafricaine Synergies africaines, organise dans le cadre du mois camerounais de lutte contre le sida les activités ci-après. Remise de matériel de sensibilisation sur invitation aux établissements scolaires et associations à l'esplanade du siège de Synergies africaines le mercredi 20 novembre 2024 à 14h. Causerie éducative avec les leaders des clubs santé des établissements scolaires, les collectivités territoriales décentralisées et les associations de Yaoundé et ses environs sur le thème drogue et VIH-SIDA, ça me concerne. Le mercredi 27 novembre à 12h30 au lycée général Leclerc. La diffusion d'une édition spéciale de l'émission Jeunesse Parlons-en sur les antennes de la CRTV. Ces activités visent à renforcer l'information, l'éducation et la sensibilisation des populations, notamment les jeunes sur les IST, le VIH, le SIDA et les drogues. 12e édition de la cérémonie de remise de bourse de l'excellence Pierre-François Xavier Meignet en dos demain, vendredi 15 novembre 2024 à Ibolova. 250 étudiants originaires de la région du Sud sont concernés. La cérémonie est placée sous la présidence du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengeli. En sport, les Lions indomptables sont arrivés à Yaoundé au petit matin. En provenance de l'Afrique du Sud, ils ont fait jeu égal 0 but partout hier avec la Namibie. Les Brave Warriors décrochent leur premier point de ces éliminatoires face à des Lions toujours indomptables. Samuel Billon.
Des Lions du Cameroun, toujours indomptables malgré un fond de jeu moins flamboyant et l'inefficacité offensive au Orlando Pirates Stadium de Soweto ce mercredi face à des Namibiens en chute libre après 4 défaites de rang, mais toujours gonflés à bloc. 90 minutes de jeu, 0 but partout, de simples étincelles de part et d'autre, un 11 entrant réaménagé, des remplacements discutables côté Cameroun. La différence de niveau au plan individuel et collectif s'est faite encore ressentir en faveur des quintuples champions d'Afrique. En dépit d'une préparation express, l'arrivée tardive en Afrique du Sud et l'absence de 3 joueurs majeurs du dispositif, Marc Brice, Carlos Baleba, Brian Bemo et Franck Zambouanguissa. Les Lions consolident leur leadership dans le groupe J, 11 points au compteur, 3 victoires, 2 nuls, 6 buts marqués et un seul encaissé. La qualification à la CAN est en poche depuis septembre. Le deuxième ticket du groupe est en ballotage entre le Zimbabwe, 8 points, et le Kenya, 4 points. Verdict ce vendredi, le Kenya rend visite au Zimbabwe de retour d'Afrique du Sud. Les Lions indomptables continuent leur préparation à Yaoundé pour la dernière rencontre à la 6e journée, mardi 19 novembre, contre le Zimbabwe au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé. Grande communion avec le public en téléchargement.
Namibie-Cameroun, ce n'est pas le match le plus abouti des Lions indomptables dans cette phase éliminatoire de la CAN 2024. Des difficultés dues aux conditions difficiles de déplacement en Afrique du Sud. Les choses seront différentes mardi prochain face au Zimbabwe à Yaoundé. Je vous propose d'écouter le sélectionneur Marc Brice dans cet extrait de déclaration d'après-match recueilli par l'envoyé spécial de la CRTV en Afrique du Sud, Charlie Merinos Liatou.
Le parcours pour jouer ce match n'était pas idéal. On doit y adapter. On était au courant que nous ne sommes pas frais. Quand tu as vu notre échauffement, ce n'était pas top. Ce n'est pas une manière qu'ils n'ont pas de l'envie. Le contraire, ils vont très fin pour gagner des matchs. C'est leur fierté. Le dernier 20 minutes, c'était pour nous. On a accéléré. On a 5 jours pour nous à préparer. Le premier jour, ça va être une récupération, bien sûr. Et après, on a 4 jours pour entraîner, pour être prêt, pour connaître le système de l'adversaire, pour trouver leurs points faibles, mais aussi connaître leurs points forts. Et surtout pour nous, pour entrer dans notre automatisme. Les jeunes aussi, ils ont prouvé qu'ils peuvent jouer un match. Alors ça, c'est le grand avantage de cette soirée. Quand il y a 4-5 jours, tu peux injecter beaucoup d'automatisme.
9 rencontres sont au programme ce jeudi. La 5e journée s'achève demain vendredi dans le groupe J avec le match Zimbabwe contre Kenya. Hier, mercredi, la Côte d'Ivoire s'est jointe à la liste des qualifiés. Le champion d'Afrique en titre a validé sa qualification sans jouer grâce au résultat nul. 1 but partout entre le Tchad et la Sierra Leone. Le Libéria enregistre la seule victoire de la journée face au Togo, 1-0, éliminant ainsi les éperviers. Le Nigeria et la Guinée équatoriale peuvent se qualifier ce jeudi, l'un des enjeux majeurs des 9 rencontres au programme. En football féminin, trophée des championnes, la finale se dispute ce vendredi à 17h au stade militaire de Yaoundé. Elle oppose Ebolova FC, championne en titre, à l'Eke Football Fille, vainqueur de la Coupe du Cameroun. Les deux équipes sont face à la presse en ce moment au siège de la FECA Foot. Le trophée des championnes va désigner le super champion. Le ministre des Finances, au regard du fort engouement observé ces derniers jours dans la souscription des déclarations, porte à la connaissance des contribuables non professionnels soumis à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques que le délai relatif est prorogé au 1er décembre 2024. Aussi, le ministre des Finances félicite-t-il ceux des nombreux contribuables qui, à date, se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale. Le ministre des Finances précise en outre que le non-respect de cette obligation déclarative législative ouvre droit à l'explication des sanctions, à l'application des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans leur centre des impôts de rattachement et au sein de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique au numéro vert 8200, une plateforme électronique d'assistance Helpdesk accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts www.support.harmonie2.cm, un numéro de messagerie au 237-691-881-881 pour les contribuables résidant à l'étranger. Le ministre des Finances compte sur le civisme fiscal de tous. Vous écoutez le 13h, voici à présent le condensé des nouvelles du jour en anglais. Drusilla Mokosodjuki.
Good afternoon. Two head teachers in the basic education sector in the center region have been dismissed on grounds of corruption. Mr. Mbiga Daniel, former head teacher of government school Bitotol Group 1, and Mr. Minloa Shil, former head teacher of government school Bitotol Group 2, were both relieved of their duties in a decision signed last November the 6th by the Minister of Basic Education. Both men were found guilty of collecting illegal registration fees for the 2025 official examinations following an internal investigation that uncovered evidence of unauthorized fees charged to pupils. According to the ministerial decision, their conduct is in violation of government regulations on free and fair access to education. A project to improve rural connectivity and support local agricultural activities in 19 subdivisions in the Adamawa region and the North regions has been launched in Garowa. The kickoff of the 13 billion CFA France project envisaged to cover some 10,044 kilometers of rural roads to enhance the cultivation of crops like maize, cotton, millet, and cassava was given by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairobi. 12 police officers in Yaoundé have received end-of-course testimonials after completing an intensive 8-week training in mine clearance. This was during a ceremony in Yaoundé today, chaired by the Secretary General at the General Delegation for National Security, Dominique Baya. And in sports, the Indomitable Lions of Cameroon resumed training at 5 p.m. at the Nguakele Stadium in Yaoundé ahead of next Tuesday's game against the Warriors of Zimbabwe. The match will be the last for both teams in the qualifying round for the 2025 Africa Cup of Nations. The Lions returned to Cameroon early today after their 0-0 draw with Namibia in Johannesburg yesterday. Cameroon, that had already picked up their qualification ticket, continued top in Group J with 11 points. These and more at 3 p.m.
À retenir de cette édition qui s'achève, hausse du prix du kilowatt, déjà dégraissement dedans chez les abonnés au compteur prépayé des zones urbaines. On est passé de 50 à 79 francs le kilowatt. C'est la résultante de la rencontre tripartite entre le régulateur, la société distributrice et le comité consultatif des consommateurs d'électricité. Corruption à milieu scolaire, la gangrène prend de l'ampleur. Deux directeurs d'écoles publiques ont été limogés par le ministre de l'Éducation de base. Le professeur Laurent-Serge Tundingwa pour perception des taux illicites, frais d'examen non conformes, APE, frais de photocopie, achat de rames de papier, matériel de construction, tout est bon pour exiger de l'argent aux parents d'élèves. C'était le dossier du 13h. 13h33 minutes à Yaoundé, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.